Il est 7h, bon réveil.
On fait passer au second plan la santé des personnels dans les écoles primaires.
Soulagement pour les parents, mais inquiétude pour les enseignants. Le protocole sanitaire est allégé à l'école à partir de demain. Plus de fermeture de classe quand un élève est positif. Premier week-end de reconfinement en Israël, en pleine période de fête. Un gros coup au moral pour les habitants. Reportage de notre envoyé spécial à Jérusalem, Gwendoline De Bono. La prise d'otage de l'hypercacher devant la cour d'assises spéciale de Paris et une polémique autour de l'audition aujourd'hui de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Dans ce journal, gros plan sur les aidants à l'occasion de la journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer et puis la victoire du surdoué slovène dans le Tour de France, Tadej Pogacar, son compatriote Roglic est deuxième, et des soupçons de dopage, info ou intox. Nous serons en direct en Slovénie avec Théo Manval.
Juste après ce journal, Bridgestone est face aux pneus chinois. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour réagir? L'éclairage écho de Nicolas Barré. Retour sur les sanctions contre l'Iran dans le regard international de Vincent Hervouet. Le Tour vient de donner la meilleure réponse possible à ses détracteurs. L'édito sport de Virginie Fulpin avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Près de 90 établissements scolaires, plus de 2000 classes fermées dans toute la France et des situations très compliquées à gérer pour les parents. Le ministère de l'Éducation décide donc d'alléger le protocole sanitaire à partir de demain pour les écoles maternelles et élémentaires.
De nouvelles règles qui s'appuient sur l'avis du Haut Conseil pour la Santé publique, selon lequel les enfants sont peu actifs dans la circulation du virus. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Réponse Romain Oquet.
Avec ce nouveau protocole, un cas positif au coronavirus n'entraînera plus la fermeture de la classe. L'enfant contaminé sera le seul isolé pendant 7 jours. Les autres élèves et le professeur ne seront quant à eux plus considérés comme des cas contacts. Une fermeture de classe, voire d'école, pourra être décidée seulement à partir de 3 cas confirmés dans une même classe. Un assouplissement des règles précipité, s'inquiète Jean-Rémy Girard, président du SNALC, un syndicat d'enseignants.
On fait passer au second plan la santé des personnels dans les écoles primaires. À force de se côtoyer, même si les enfants contaminent peu, est-ce que à l'arrivée, ils vont pas risquer quand même de contaminer les adultes qui sont à l'école? Et eux peuvent contaminer beaucoup plus de monde. Donc le risque est là. Est-ce que c'est un risque mesuré? C'est loin d'être certain.
De son côté, le ministère s'appuie sur l'avis du Haut Conseil de la Santé publique. Les enfants sont moins contagieux que les adultes et le risque de transmettre le virus est plus faible. Inutile donc, estime le gouvernement, de continuer à renvoyer autant d'écoliers chez eux. Depuis la rentrée, près de 90% des établissements fermés sont des écoles primaires ou maternelles.
Si la France allège un peu les mesures à l'école, d'autres pays serrent la vis. Au contraire, l'Espagne, qui oblige désormais 850 000 habitants des quartiers sud de Madrid à rester dans leur quartier, sauf nécessité.
Et puis Israël qui, depuis vendredi, a décidé de reconfiner toute la population pour 3 semaines. Une décision qui coïncide avec les fêtes juives et qui est plutôt mal vécue par les habitants. Écoutez le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Gwendoline De Bono.
Il y a encore quelques semaines, Sarah se réjouissait à l'idée de ce week-end. Une grande table pour fêter Rosh Hashanah, la nouvelle année juive. Elle et sa famille ont bien trouvé une astuce pour la célébrer, mais le cœur n'y est pas.
Moi et ma famille, on a fêté Rosh Hashanah une nuit avant le confinement. Comme ça, on a pu se rassembler tous ensemble. Mais c'est une situation étrange. Je ne crois pas que le confinement va durer seulement 3 semaines.
L'incertitude épuise les Israéliens et le reconfinement alimente la colère. Devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou hier soir, des manifestants réclament sa démission.
C'est un confinement politique, c'est une excuse pour le Premier ministre qui est dans l'échec. Et au lieu de gérer les problèmes, il nous impose un second confinement.
Derrière les pancartes, il y a les difficultés, le niveau de vie qui baisse à mesure que l'épidémie progresse.
Ma fille est architecte, son cabinet l'a mise au chômage technique pour 3 mois, alors je l'aide. Son mari est chef cuisinier dans un restaurant qui a fermé. Si le confinement se poursuit, est-ce que c'est encore le chômage qui les attend?
Ici, on compte désormais sur la solidarité. La confiance dans les autorités semble brisée. Jérusalem, Gwendoline De Bono, Europe 1.
7h04 sur Europe 1. La prise d'otage de l'hypercacher au cœur des débats à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. C'était le 9 janvier 2015. 4 hommes avaient été tués.
Et cet après-midi, une invitée de dernière minute est prévue à l'audience. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait pas l'unanimité. Il s'agit de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui doit être entendue à la demande d'un avocat des parties civiles. Chloé Triomphe, de nombreuses voix s'élèvent pour se demander quelle est l'utilité d'une telle audition.
Ah oui, c'est la question qui a occupé tous les avocats en marge de l'audience et qui n'en finissait pas encore ce week-end d'alimenter la polémique. Maître Daphné Pugliesi, l'une des avocates de la défense, est celle qui a lancé publiquement la fronde.
Anne Hidalgo n'a pas été un témoin direct des faits. Elle n'a pas assisté à plus d'événements, je pense, que notre président de l'époque, M. François Hollande, ou que M. Bernard Cazeneuve. Donc nous ne comprenons pas trop les raisons de sa venue à cette audience qui déjà est d'ailleurs très surchargée.
Il n'y a qu'un pas pour que certains se demandent, y compris côté parti civil, si les intentions de la maire de Paris pourraient avoir une autre raison plus politicienne, maître Samia Maktouf.
J'espère que ce n'est pas une tribune que s'offre madame la maire de Paris dans un procès aussi emblématique, un procès historique pour les partis civils. Je ne sais pas ce qu'elle aura à dire pour contribuer à la manifestation de la vérité.
Sauf défection de dernière minute, Anne Hidalgo est donc attendue de pied ferme par une partie des avocats à 16h cet après-midi.
Chloé triomphe. Deux personnes toujours portées disparues ce matin après l'impressionnante montée des eaux dans le Gard ce week-end. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. La situation revient progressivement à la normale.
C'est une journée importante à Béthune, dans le Pas-de-Calais, pour le site de Bridgestone et ses 863 salariés. Le gouvernement, les élus locaux et les syndicats se retrouvent avec l'espoir d'éviter la fermeture du site du géant japonais du pneu.
Ce 21 septembre marque la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Et ce matin sur Europe 1, on se penche sur le rôle des aidants, conjoints, enfants, tous ceux qui se consacrent nuit et jour à leurs proches, avec souvent l'impression d'être totalement démunis.
Pas facile d'appeler à l'aide, de reconnaître ses failles aussi. Pas facile non plus de laisser entrer un étranger dans l'intimité du foyer. Comme à Toulouse, où Benjamin Péter a rencontré André, qui s'occupait seul de sa femme, mais qui a finalement accepté d'être épaulé.
Pour elle, elle n'est pas malade. Mais à la maison, il va falloir tout surveiller. Tout. Je lui dis quelque chose, elle va faire le contraire. C'est épuisant au bout d'un certain temps.
Et cet épuisement, c'est la fille d'André qui l'a remarqué. Alors depuis quelques semaines, quelqu'un vient aider sa femme Betty à travailler sa mémoire 2 heures par semaine. Une option à laquelle il n'avait même pas pensé.
J'avais pensé pour le jardin et puis un petit peu de ménage et tout ça. Et j'avais pas pensé que des personnes pouvaient venir pour l'aider à ce niveau-là. Bien sûr, ça fait du bien, oui. Moi, je vais voir des collègues et tout. Ça fait souffler, voilà.
Il n'a pas été facile de faire accepter à son épouse que désormais quelqu'un viendrait à la maison pour Audrey Simon de WeHelp. Il faut créer un lien avec la personne malade pour que elle, comme l'aidant, accepte cette aide extérieure.
C'est toujours très compliqué parce qu'en général, la personne malade se dit non, moi j'ai besoin de rien, se rend pas compte que l'aidant est épuisé. C'est là où il faut la rassurer, leur dire que effectivement, faire venir quelqu'un chez eux dans leur intimité, c'est très compliqué. Et ça, on en a conscience. Et que si le lien ne se crée pas, dans ces cas-là, il faut nous le dire pour qu'on trouve une autre personne.
Et selon elle, il ne faut pas hésiter non plus à se renseigner avant auprès des structures, savoir à quelles aides on peut prétendre pour ne pas mettre en place ces solutions dans l'urgence. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Et on fera le point sur les dernières pistes de recherche sur la maladie d'Alzheimer dans le journal de 8h tout à l'heure.
Un sacré cadeau d'anniversaire pour Tadej Pogacar, 22 ans aujourd'hui, plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904. Il a devancé son patriote slovène Primož Roglič, avec d'impressionnantes performances qui ont fait naître une certaine suspicion.
D'anciens coureurs ont même exprimé des doutes ouvertement sur des pratiques de dopage. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Slovénie. Avec vous, on va prendre le temps de faire le point sur ces soupçons. Il faut dire que le pays a un bilan des plus lourds en termes de contrôle positif dans le cyclisme ces dernières années.
Oui, l'an dernier, la Slovénie était le deuxième pays au monde avec le plus de coureurs contrôlés positifs. 8 sur 19 au plus haut niveau suspendus pour dopage ces 10 dernières années. C'est énorme. La faute notamment à des managers prêts à tout. J'ai rencontré le vice-champion d'Europe espoir du contre-la-montre. Il s'appelle Isidor Penko, il a 24 ans. Il a préféré arrêter sa carrière il y a 2 ans, ne jamais passer pro parce qu'il ne voulait pas franchir la ligne jaune.
J'ai toujours été propre et je ne voulais pas risquer ma santé. Je ne voulais pas faire certaines choses. Donc je ne voulais pas avoir affaire à certains managers. J'avais de bons résultats, mais du coup, aucun des managers influents n'a voulu de moi. Ça m'a dégoûté du cyclisme.
Et quelle importance vous pensez qu'ils ont encore dans le milieu, ces gens-là ?
Du temps où je courais, assez grande. S'ils te trouvent intéressant, ils viennent te dire, on te trouve une petite équipe, tu y restes un an ou deux, et après on te fera passer pro. Là, c'est à toi de voir ce que tu veux faire.
Et ce jeune coureur, Théo, il a des soupçons sur Roglic ou Pogacar ?
Alors il dit clairement non, il courait chez les jeunes dans la même équipe que Pogacar il y a encore 3 ans et comme beaucoup de gens ici, il l'a toujours connu vraiment au-dessus du lot. C'est aussi ce que m'a dit le patron de l'agence slovène antidopage qui rappelle que Roglic et Pogacar sont suivis de très près et que leur nom n'a jamais été cité dans la moindre enquête. Mais il fait aussi un constat très amer cet homme, Janko Dvorak, sur les efforts, les contrôles au plus haut niveau.
Cette année on a fait 500 tests chez les pros et seulement 1,5% sont revenus positifs. C'est le même chiffre en moyenne dans le monde. Donc ça pose la question de l'efficacité de nos tests. L'aspect scientifique aujourd'hui, c'est le point faible de la lutte antidopage. C'est très difficile de dire ça pour moi, parce que c'est mon travail et j'essaie de faire au mieux. Mais c'est un problème trop grand pour nous.
Voilà, terrible constat d'impuissance du patron slovène de la lutte antidopage équivaut, dit-il, pour tous les pays à travers le monde.
Merci Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 en Slovénie.
Allez, le foot, un partout entre Marseille et Lille hier soir. Saint-Etienne est en tête du classement de Ligue 1 à égalité avec Rennes. Sachez aussi que les qualifications de Roland-Garros commencent aujourd'hui, mais 5 joueurs sont déjà exclus. 2 cas positifs, 3 cas contacts, on ne connaît pas leur nom.
Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal de 7h sur Europe 1.